Une fois n'est pas coutume. Permettez-moi de commencer cette homélie par la relation d'un événement auquel j'ai été lié. Je participais à un échange récent dans un groupe, à l'occasion d'un rassemblement dans le diocèse. À son tour, une dame prend la parole et fond en larmes. Elle partage la rude épreuve qu'elle traverse. Son fils s'est suicidé. Il laisse une compagne et des enfants encore bien jeunes. Il n'existe apparemment aucune explication rationnelle à ce geste de désespoir. Cette maman effondrée déplore surtout la solitude et l'abandon dans lequel elle se trouve. Elle éprouve le sentiment de ne rencontrer que des portes fermées, des cœurs indifférents, des oreilles distraites, même, dit-elle, au sein de groupes catholiques. Un long silence suit son témoignage. Une pensée me traverse alors l'esprit. J'ai en tête les débats, les polémiques, les critiques qui agitent notre pays et l'Église. Oh, bien sûr, je ne conteste pas le bien fondé et la légitimité de ces flots de paroles, d'écrits et d'images. Mais je m'interroge. Que vaut cette agitation, chaque jour entretenue, au regard de la détresse de cette femme? Face au choc des idées sur ce que nous estimons être les grands problèmes que doit affronter notre société, de quel poids pèse la souffrance secrète d'une mère? Je viens d'entendre avec vous le prophète Isaïe, puis Jésus qui en reprend les paroles. Ils annoncent une bonne nouvelle pour les pauvres, la libération, la lumière, la liberté, la consolation, une année favorable. Et Jésus atteste qu'aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Pour la 28e fois, je commande cet évangile qui nourrit, dans la célébration de la messe chrismale, les membres de l'Assemblée et leurs pasteurs. J'éprouve cette année, avec une intensité particulière, la nécessité de revenir avec vous. Et comme le Christ, là où nous avons été élevés et où nous avons grandi, il nous faut réentendre la parole de Dieu, puiser à sa source vivifiante, nous laisser greffer sur le Fils de Dieu. Les coups de boutoir qui frappent notre Église, et que ses membres sont d'ailleurs fort bien capables de s'asséner à eux-mêmes, ne doivent pas nous décourager et nous alarmer. Ils peuvent utilement nous ramener au cœur de la foi, au centre du ministère, à la pointe de la mission et du rayonnement de l'Église. Lorsque je suis entré au séminaire, et je vous dis en confidence que ce n'était pas hier, je me demandais déjà avec mes condisciples quelle Église nous voulions. Nous pensions naïvement que notre ministère futur consisterait à répondre à cette question et à mettre en œuvre les solutions de sauvegarde de l'Église. Que nos devanciers, évidemment moins futés, zélés et pieux que nous, avaient laissé filer. 50 ans plus tard, la même question est toujours posée. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui et demain lui soit apportée la réponse qu'aucune génération depuis 20 siècles n'a pu lui donner. fidèle du Christ, ministre ordonné, consacré, pourquoi faire semblant d'ignorer ce que Dieu veut pour l'humanité et pour l'Église de Jésus-Christ? Nous nous plaignons de la perte de la culture chrétienne, de la diminution, voire de la disparition de l'influence de l'Église dans la société, de la relativisation, peut-être même du rejet de son enseignement moral. L'histoire nous dira sans doute de quel prix notre civilisation occidentale paie et paiera ce divorce. Ces regrets ne nous exonèrent pas d'une remise en cause radicale. Où, quand, comment nos contemporains font-ils l'expérience d'une Église en qui et par qui parviennent une bonne nouvelle pour tous les pauvres, la libération, la lumière, la consolation, une année favorable? Nous savons bien que le portrait et la stature donnée par l'Église d'elle-même au fil du temps ne suffisent plus à la faire reconnaître. Mais ce n'est pas parce que des modes d'être de l'Église disparaissent ou se transforment que l'Église meurt. Notre Église n'échappe pas à la controverse. Elle en est parfois et au moins partiellement responsable. L'émergence de la vérité ouvre toujours la voie à la purification, à la conversion, au renouveau. Elle nous aide à revenir dans le dépouillement et le renoncement au Christ lui-même et à parcourir de façon permanente avec lui le chemin de son incarnation, de sa prédication, de l'avènement du royaume, de sa mort et de sa résurrection. Les sacrements qui utiliseront les huiles que nous allons bénir ou consacrer engagent les fidèles sur cette voie. Ils nous permettent d'accueillir l'œuvre créatrice et recréatrice de Dieu dans le cœur et dans la vie des fidèles de l'humanité. Ils nous donnent l'audace et la force d'accomplir la bonne nouvelle pour les pauvres. Ils nous font participer ici et maintenant à la mission du Christ qui libère, illumine, console et fait entrer dans une année favorable. Les sacrements rendent visible et sensible le passage de la mort à la vie que le Fils de Dieu nous invite à effectuer avec lui et en lui. Toute l'Église que nous représentons ici ce matin dans cette cathédrale est engagée dans cette démarche qui échappe à tant de regards et d'analyses. Pour la servir, Jésus a voulu que les ministres ordonnés soient en leur personne sa présence vivante et agissante dans l'Église et pour le monde. Il est inévitable qu'au gré du temps et des circonstances, le clergé ait été identifié et reconnu socialement comme une catégorie spécifique. Il a joué un rôle économique, politique, moral, caritatif, qui a souvent porté de bons fruits. Mais ce clergé s'est aussi laissé prendre au piège du pouvoir, de l'influence, mettant au compte de la volonté divine des injonctions qui n'étaient que d'habiles et parfois odieuses manœuvres humaines. Nous avons lu dimanche dernier la Passion selon saint Luc. Nous avons été surpris de constater qu'au moment même où Jésus donne son corps et son sang, fait le don de l'Eucharistie, les apôtres se querellent pour savoir qui est le plus grand. Ils sont à mille lieues de ce mystère dont eux-mêmes et leurs successeurs deviendront, malgré leur pauvreté et leur faiblesse, les indispensables ministres. Une leçon d'humilité nous est donnée. frères et amis prêtres. Nous ne sommes probablement guère meilleurs que les apôtres, qui viennent pourtant de bénéficier de 3 ans de compagnonnage dense et intime avec Jésus. Quel maigre et décevant résultat. Pourtant, ce sont les mêmes hommes qui, l'Esprit Saint aidant, proclameront leur venue qu'aujourd'hui s'accomplit la parole du prophète. Par leur ministère, ils annoncent une bonne nouvelle pour les pauvres, la libération, la lumière, la liberté, la consolation, une année favorable. Chers frères prêtres, l'Église vous demande de renouveler chaque année les promesses de votre ordination. Mère aimante, elle connaît la sincérité, la générosité et l'enthousiasme de votre volonté. Elle se réjouit de votre engagement total et de tous les instants. Cette Église s'est aperçue que vous faites toujours, allez, presque toujours, la joie de votre évêque. Elle n'ignore pas cependant que vous portez les trésors qu'elle vous a remis au nom du Christ dans des vases d'argile. Dans quelques instants, je vous questionnerai. Il vous est demandé d'être toujours plus unis au Seigneur Jésus, de chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en restant fidèle par amour du Christ et pour le service de l'Église. Il vous est demandé d'être les intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Il vous est demandé d'annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité. Tout est dit. Chers amis, en répondant comme vous le faites finalement chaque jour, « Oui, je le veux », vous redirez votre abandon et votre attachement au Christ, qui vient encore par toute son Église et par le ministère ordonné, consoler, éclairer, libérer, propager la bonne nouvelle, diffuser ses bienfaits. Il vient encore offrir le salut qui nous a une fois pour toutes obtenu. La joie reçue de ce renoncement et de ce service peut encore étonner le monde. Elle est le plus sûr garant de l'appel et de la réponse des jeunes et des moins jeunes qui, malgré les obstacles tant réels que supposés, seront prêtres demain. La même Église sera un peu inquiète quand vous gagnera la démangeaison de la grandeur, de la suprématie, de l'apparence. Rappelez-vous que même dans l'Évangile, cette ambition côtoie dangereusement le mystère de la foi, l'Eucharistie elle-même. À cette heure de faiblesse, ne cherchez pas le verset de l'Évangile, l'extrait de documents conciliaires, les lignes d'un théologien ou le canon qui vous donnerait l'illusion d'avoir raison. Acceptez d'être pauvre, très pauvre, tout pauvre, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Chers amis prêtres, ce n'est qu'avec le Christ, par lui et par lui, que vous serez exaltés. N'ayez pas peur de montrer ce bonheur, votre bonheur, surtout quand il est incompris et dévalorisé. Ne le justifiez pas. Ce n'est pas vous qui devez être les avocats de votre ministère. C'est le Christ qui, par vous et en vous, donnera son amour à notre humanité et lui promettra la joie qui déjà vous habite.